Débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour, quelle immense joie de vous retrouver. Bienvenue dans le débat BBC Afrique, Africa Radio. Francis Laloupo, bonjour.
Bonjour Liliane, heureux de vous retrouver après une si longue absence. Beaucoup de messages sur Internet vous concernant, tous les auditeurs qui vous cherchaient partout sur la planète. Et évidemment, je n'ai pas donné d'informations particulières ni privées en ce qui vous concerne. On est tout à fait heureux de vous recevoir.
Je savais que je pouvais compter sur vous, Francis Laloupo. Merci beaucoup.
Et je rassure les auditeurs que vous êtes en pleine forme.
Oui, ça c'est sûr. En tout cas, ravi d'être à nouveau à vos côtés. Au Togo, les députés, en approuvant la révision constitutionnelle, ont donné le feu vert au président Faurien Simbé de se représenter en 2020 et 2025. S'il le souhaite, la limitation du nombre de mandats présidentiels a cependant été consacrée, de même que l'élection présidentielle à deux tours, comme le souhaitait l'opposition. A-t-elle néanmoins perdu définitivement la bataille sur le retrait du président Faurien Simbé en 2020, ou va-t-elle rebondir et reprendre la main? Analyse dans cette émission. Au Cameroun, l'offre de dialogue du président Biya aux sécessionnistes anglophones sera-t-elle entendue? Face aux pressions internationales, le chef de l'État camerounais, qui avait jusque-là opté pour la solution militaire pour venir à bout du conflit qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest, s'est dit disposé à organiser un dialogue. Mais pas question de discuter de la partition du pays comme l'exigent les indépendantistes des deux régions. Faut-il tout de même rester optimiste? On verra ce qu'en pensent nos invités. Palpitante semaine politique en République démocratique du Congo avec le retour d'exil de l'opposant Moïse Katumbi et la nomination d'un Premier ministre 4 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi. La nomination de Sylvestre Ilunga Ilukamba, présenté comme un homme discret, est le résultat d'un consensus entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, dont le parti, le PPRD, conserve la majorité au Parlement. Quelle sera sa marge de manœuvre face à deux forces politiques solides de leur soutien respectif et qui s'épient? Quel agenda pour le nouveau Premier ministre? Nous en débattrons. À vous Francis pour le plateau de cette semaine.
Oui, il y a notre grand témoin invité dans cette édition. Il est avec nous au téléphone depuis Lomé, capitale du Togo. Jerry Komandega Tama, député à l'Assemblée nationale du Togo, président du groupe parlementaire Nouvel Engagement Togolais et président également du groupe Nouvel Engagement Togolais et Parti Démocrate Panafricain, le groupe Net PDP. Jerry Komandega Tama est également secrétaire du groupe des centristes. Monsieur le député, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et notre confrère invité qui sera avec nous au cours de cette édition. Au téléphone depuis Yaoundé, Rodrigue Tongué, journaliste à Canal 2 International, chaîne bien connue de télévision privée du Cameroun. Petite fiche de présentation de notre grand témoin invité, Jerry Komandega Tama. Vous êtes né en 1975 à Siou, au nord du Togo, après un baccalauréat scientifique obtenu en 1995 au Togo. Vous serez titulaire d'une licence en sociologie de la communication de l'Université de Lomé, avant d'intégrer l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1999. Diplômé de cette école militaire, vous êtes également titulaire d'un master en droit international humanitaire. Après avoir servi en tant qu'officier au sein des forces armées togolaises, vous décidez de vous en retirer pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et vous dirigez plusieurs entreprises. On va citer Jaguar Security, la Case Verte, la Maison des Paysans. Ancien candidat à la présidentielle en 2015, vous êtes député à l'Assemblée nationale, secrétaire du groupe des centristes et président du groupe parlementaire NET PDP, Nouvel Engagement Togolais et Parti Démocrate Panafricain. Écrivain, directeur des éditions L'Armatan, vous avez publié Parcours de combattant, un roman, et aussi Chronique de la caserne, pour lequel vous avez obtenu le prix littéraire de la Saint-Cyrienne en 2010. Jerry Tama, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Merci d'être avec nous. Liliane.
Voilà, et voilà Francis, on va commencer donc avec le Togo. Après le vote controversé par les députés de la réforme de la Constitution, quelle opposition face au président Faurien Simbé? Elle a longtemps réclamé, avec le soutien d'une partie de la société civile, le retrait de ce dernier de la présidentielle de l'année prochaine. Elle n'a donc pas eu gain de cause sur ce point. Alors qu'on s'interroge sur ce que va faire ou peut faire l'opposition pour contrer une éventuelle candidature du président actuel en 2020, eh bien, quotidien, la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH, exprime ses inquiétudes face à la régression, selon elle, des droits de l'homme dans le pays. Dans un rapport d'enquête intitulé « Togo, terreur contre le peuple », publié cette semaine sur la violation des droits de l'homme entre juillet 2018 et avril 2019, l'organisation souligne que les droits de l'homme et les libertés individuelles sont de plus en plus bafoués au Togo. Célestin Abogan est le président de la LTDH au micro du correspondant de BBC Afrique au Togo, Nicolas Akbosso.
Les nombreux cas de violation des droits de l'homme que nous avons constatés dans notre pays, particulièrement dans certaines villes et certaines préfectures, et à Lomé également, où des exactions ont été commises, des violations des droits de l'homme ont été perpétrées contre des citoyens qui manifestaient dans le cadre des revendications politiques. Il y a eu beaucoup de blessés, dont certains par balles. Il y a eu également entrave à la liberté d'opinion, à la liberté de manifestation, où des manifestations pacifiques ont été interdites, empêchées, réprimées par nos forces de sécurité et même nos forces armées qui interviennent et qui sèment de la terreur parmi la population, surtout à l'intérieur du pays et même à Lomé, où des procès ont été engagés contre des personnes que nous pouvons considérer ou nous considérer comme des victimes, mais qui ont été condamnés.
Est-ce que vous avez porté le document à la connaissance des autorités togolaises en charge de la défense des droits de l'homme?
Nous ne leur transmettons pas les documents avant publication. Les autorités et toutes les personnes concernées et qui peuvent jouer un rôle fondamental pour que ce rapport-là ou les recommandations puissent être mises en œuvre, ils auront ce rapport-là.
Voilà. Monsieur Tama, avant de parler de la réforme constitutionnelle et de la polémique autour des listes électorales, évoquons rapidement ce rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Juste pour vérifier avec vous, est-ce que vous l'avez lu ?
Je l'ai parcouru, je ne l'ai pas lu en entier. Comme il a dit, ce n'est qu'après publication que le rapport est accessible au commun des mortels. Donc nous allons pouvoir le lire entièrement. Je crois que il y a sans aucun doute, pour être un acteur politique dans le pays, c'est une obligation pour moi de le lire entièrement, mais je l'ai quand même parcouru et j'ai suivi aussi toutes les publications.
Donc vous avez les grandes lignes de ce rapport.
Voilà, je connais les grandes lignes de ce rapport.
Voilà, qui parle donc, qui évoque donc la question de violation des droits de l'homme et des libertés individuelles, mais cette question n'est pas nouvelle au Togo. En le parcourant, ce rapport, est-ce que vous avez remarqué peut-être qu'il y a des nouvelles formes de violation observées pendant la période couverte par l'enquête et qu'on n'avait peut-être pas observé jusque-là?
Ce que je dois dire, c'est que depuis l'année 2019, peut-être fin 2018 et 2019, l'exercice des libertés de manifestation ont été légèrement, il faut le dire, réduites parce que les itinéraires ont été parfois imposés. Et il se fait que chaque fois que les manifestants sortent du cadre prévu par soit les itinéraires ou bien les zones qui sont interdites, il y a toujours des affrontements entre les populations et les forces de l'ordre. Et vous comprenez très bien que quand il y a des affrontements entre les militaires et les forces de l'ordre, il y a toujours, sans aucun doute, des abus sur...
Mais ce que vous décrivez, est-ce que c'est un phénomène nouveau puisque la question des droits de l'homme remonte au moins à 2005 au Togo?
Oui, mais il faut aussi, je pense qu'il faut avoir le courage de reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Même beaucoup d'organisations de la société civile ont reconnu quand même que au plan des droits de l'homme, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits. Les notations même internationales du Togo ont été ont reconnu cette évolution. Je dois avouer que c'est uniquement dans les cas de manifestations interdites que les affrontements qui arrivent donnent lieu malheureusement à des abus. Voilà, sinon, sur le plan des libertés publiques, sur le plan des libertés de toute autre liberté que les libertés de manifestation, ou alors les manifestations qui sont autorisées, qui ont l'accompagnement des forces de l'ordre, il n'y a pas d'abus, mais c'est uniquement dans ces cas particuliers-là qu'on remarque malheureusement cette situation que nous tous nous déplorons.
Monsieur le député Géry Tama, d'abord une question pour vous situer politiquement. Vous êtes président du groupe NET Net PDP à l'Assemblée, secrétaire du groupe des centristes. Que signifie être centriste sur l'échiquier politique togolais ?
Bon, d'accord. Je vais d'abord peut-être situer historiquement le parti. Le parti a été membre fondateur de la coalition Arc-en-Ciel en 2012, qui était le deux grands regroupements des partis de l'opposition qui animaient la vie politique du Togo. Ensuite, nous avons été membre fondateur de CAP 2015, le regroupement qui a conduit M. Fabre aux élections présidentielles de 2015, même si on a quitté le gouvernement un peu avant les élections pour se présenter au nom de notre parti.
Parce que vous étiez candidat vous-même en 2015.
Voilà, nous avons été candidats nous-mêmes en 2015. Et en 2017, vous savez qu'il y a eu la C14 qui vient s'installer et nous avions refusé de rentrer dans le gouvernement. Donc du coup, il y a, on va dire, deux entités qui se faisaient face, la C14 et le Parti Unir. Et un certain nombre de partis qui animaient quand même la vie politique, mais qui ne se retrouvaient pas dans des positions parfois extrêmes de ces deux blocs, se sont mis ensemble pour dire « nous représentons les centristes pour deux raisons, sur le plan idéologique, hein, et humanisme, pragmatisme, ainsi de suite, mais aussi apporter une solution intermédiaire, médiane, à la crise politique togolaise. » Donc voilà, dans ce contexte que le groupe des centristes est né le 14 avril 2018, pour être en mesure d'apporter une solution médiane, mais pour autant nous restons parti de l'opposition, opposés au parti au pouvoir, et depuis 2012, nous agissons, l'ensemble de nos propos, l'ensemble de notre engagement s'oppose au parti qui est là aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Nous sommes un groupe parlementaire de l'opposition, selon l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition.
Parlons donc de cette réforme qui institue notamment la limitation du nombre des mandats présidentiels, mais qui n'empêche pas l'actuel dirigeant Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de briguer d'autres mandats présidentiels en 2020 et 2025, théoriquement bien sûr, étant donné que la nouvelle réforme n'est pas rétroactive. Alors, en quoi cette réforme résout-elle, selon vous, la crise en cours dans le pays depuis 2 ans?
Ben, je crois que, vous savez, depuis, pas uniquement 2 ans, la crise politique togolaise...
Elle est ancienne, elle est ancienne.
Voilà, elle fait 13 ans qu'elle est là, et depuis 13 ans, on a eu des manifestations, des morts, des exilés, des pertes en matériel.
Mais je vous pose la question, parce que l'alternance a été au cœur des revendications depuis 2017, et manifestement, cette réforme ne répond pas, je dirais, à ce désir d'alternance qui est clairement affirmé.
Non, maintenant, après, l'alternance ne sera jamais un cadeau. L'alternance est une quête de la part des formations politiques qui doivent aller prendre cette alternance-là au niveau du suffrage universel que le peuple doit pouvoir lui conférer. On peut mettre en place toutes les constitutions qu'on veut. Ben, l'alternance, le changement de régime ou le changement d'homme à la tête d'un pays dépend exclusivement du choix du peuple togolais. Et donc, en réalité, quelle était la question qui était posée aux députés de la 6e législature? C'est est-ce qu'il fallait faire la réforme pour consacrer le verrou constitutionnel, où le Togo reste encore le seul pays de l'Afrique de l'Ouest à ne pas avoir sur le constitutionnel, des limitations de mandat, ou alors il fallait continuer les atermoiements que nous avons fait depuis maintenant, on va dire, une dizaine d'années, où chaque fois qu'il y a eu la possibilité de faire les réformes, on a trouvé des arguments pour ne pas les faire, en laissant dans le boulevard à M. Faure Gnassingbé, comme ça a été le cas en 2014. Donc, face à ce dilemme-là, nous avons choisi l'option d'être pragmatique, de dire, première étape, faire la limitation de mandat. Donc, article 59 de la Constitution, mais assorti d'une deuxième disposition qui est très importante, les élections à 2 tours. Parce que si vous n'avez pas des élections à 2 tours, l'alternance est d'autant plus difficile dans des pays où les moyens financiers ou structurels des partis de l'opposition sont plutôt réduits. Donc, en réalité, nous avons dit il faut marquer le pas et dire qu'à compter du 8 mai 2019, il faut absolument adopter la limitation de non-mandat.
Donc, pour vous, monsieur... Allez-y, oui. Terminez sur la question de la rétroactivité.
Non, je voulais dire que la question de la rétroactivité, madame, excusez-moi, mais je ne connais pas de pays où il y a des lois constitutionnelles qui soient rétroactives, sauf en cas d'accord politique entre les différents protagonistes, ce qui n'était pas le cas.
Donc vous considérez que la réforme actuelle, la constitution actuelle était quand même le moindre mal, parce qu'il y a eu 2 points sur l'élection à 2 tours, ainsi que la limitation du nombre de mandats présidentiels?
Exactement. C'était le minimum. Sans compter qu'il faut aussi préciser que les réformes n'ont pas concerné uniquement que ces 2 articles. On a eu jusqu'à 29 articles qui ont été modifiés dans la Constitution. Mais vous savez, depuis une dizaine d'années, les 2 points d'achoppement sur le débat politique au togolais, c'était la limitation de mandat à les élections à 2 tours. Cette fois-ci, c'est une réalité dans le pays. C'est pour ça que je vous parle de verrou constitutionnel. C'est un minima.
Vous n'avez pas répondu à ma question précisément, parce que votre pays est en crise, dans une crise politique. Vous l'avez dit vous-même, une crise ancienne, avec un regain de tension depuis 2017. Est-ce que cette réforme est une solution politique, je dis bien politique, à la crise ou pas?
Oui, pour moi, du fond de ma conviction, je pense que c'est une solution politique. Et je peux, à la limite, même prouver que c'est une solution politique, puisque cette réforme constitutionnelle n'a donné lieu à aucun regain de violence dans le pays depuis qu'on l'a adoptée. On aurait eu, comme on l'a eu en 2017 ou éventuellement dans la fin 2018, de nouvelles manifestations dans le pays suite à l'adoption de cette réforme. On aurait dit qu'on a plutôt versé de l'huile sur le feu. Vous avez constaté que quasiment tous les partis ont pris acte de cette réforme et aujourd'hui s'organisent à participer de façon active.
Pas tous les partis, pas tous les partis, mais Jerry Tama, pas tous les partis. Certains partis, dont l'ANC, mais plusieurs partis de la C14, pour ce qu'il en reste en tout cas, promettent de nouvelles manifestations et rejettent cet accord qu'ils trouvent inacceptable, je cite.
Oui, mais messieurs, si vous prenez le nombre de promesses de manifestation que nous avons de la part de certains de nos confrères, vous comprendrez qu'il est toujours parfois salutaire de donner l'impression qu'une mesure qui n'a pas été faite par ceux qui auraient pu la faire au moment où ils en avaient les moyens, qu'on puisse donner l'impression qu'on la proteste, parce qu'il faut juste... on n'a pas besoin de beaucoup de jours pour organiser des manifestations dans ce pays, on l'a déjà vu à plusieurs reprises.
Pour vous, Monsieur Jerry Tama, le débat sur la réforme politique est clos et l'opposition doit passer à autre chose.
Aujourd'hui, moi, je pense que c'est même pas que je n'ai pas vocation à dire. Et j'aimerais peut-être préciser aussi qu'il vaut mieux quand on parle de l'opposition que de la dire une partie de l'opposition parce qu'elle est plurielle, comme vous l'avez constaté. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens décident de passer à autre chose. Quand vous prenez le parti de l'ancien chef de file de l'opposition, M. Jean-Pierre Fabre, il est allé faire le recensement tout récemment pour prendre part aux élections locales qui auront lieu dans
le 30 juin prochain.
Parfaitement que... Allô?
Oui, le 30 juin prochain.
Voilà, vous comprenez parfaitement que donc ça veut dire que les grandes formations politiques, le cas qui était la deuxième grande formation politique aujourd'hui à la CENI, et se prépare aux élections les locales qui s'organisent. Donc vous comprenez parfaitement qu'une grande partie des formations politiques ont décidé de faire preuve de pragmatisme et donc prendre acte de ce qui a été fait pour avancer.
Donc il n'y a plus de débat sur la question de la candidature de Fornia Simbé en 2020.
Je pense que pour le moment, vous savez, madame, moi, je n'ai pas une boule de cristal. Je ne sais pas si M. Fornia Simbé voudra se présenter en 2020 ou pas. Mais aujourd'hui, c'est pour ce que je vous ai dit, la rétroactivité n'est pas, sur les grands principes juridiques, n'est pas quelque chose qui s'impose aux lois constitutionnelles. Donc, éventuellement, si M. Fornia Simbé décide de se présenter en 2020, ça peut donner lieu à des manifestations dans le pays. J'en sais rien, on verra en 2020. Mais ce que je reconnais aujourd'hui, c'est que les gens ont pris acte quand même de l'évolution que nous avons pu faire sur la Constitution en consacrant à la limitation du mandat et les élections à deux tours.
Rodrigue, en une minute avant de passer à la pause, votre commentaire sur ce débat relatif à la réforme constitutionnelle au Togo. Allô? Allez-y sur le Togo, votre commentaire sur cette discussion, cette réforme, cette révision de la Constitution au Togo. Bon, manifestement, il ne nous entend pas. Alors, Monsieur Tama, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à la classe politique togolaise? Est-ce que vous avez l'espoir que, définitivement, on va évoluer vers d'autres préoccupations plutôt que celles qui ont porté pendant de longues années sur les réformes constitutionnelles? Et comment l'opposition peut-elle se mettre ensemble pour y arriver?
Je crois que la plus grande évolution de cette réforme, c'est la fiche seconde qui consacre les élections à deux tours. Ça permet maintenant à l'opposition n'est plus obligé de se mettre dans des regroupements qui sont souvent des paniers à crabe, mais que chaque parti puisse aller travailler sur le terrain et espérer avoir des élections où au deuxième tour l'opposition pourra s'organiser pour mutualiser leurs forces et battre le candidat du parti au pouvoir.
Et soutenir un seul candidat.
C'est beaucoup plus cette organisation, oui, bien sûr.
Merci beaucoup. Francis, c'est l'heure de la pause.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Le débat en duplex à Dakar et Paris. Notre grand témoin invité depuis Lomé au téléphone, Jerry Tama, député à l'Assemblée nationale du Togo, président du groupe parlementaire NET-PDP, NET-PDP, nouvel engagement togolais et parti démocrate panafricain, secrétaire du groupe des centristes, notre confrère invité. Depuis Yaoundé au téléphone, Rodrigue Tonguay, journaliste à Canal 2 International. Rodrigue Tonguay, qu'on va peut-être pouvoir écouter à présent sur la situation au Togo, ces réformes qui font débat au Togo. Rodrigue Tonguay, vous m'entendez ?
Je vous entends très bien.
Ah ben écoutez, on va pouvoir vous écouter cette fois-ci. Vous avez écouté, voilà. Monsieur le député, notre grand témoin, sur ces réformes.
Oui.
Quelle réflexion cela vous inspire ?
Je l'ai écouté, son discours me rappelle celui du député centriste ici au Cameroun, ou du député centriste sur l'étendue du continent. Je note qu'il ne fait pas partie de l'opposition extra-parlementaire qui est dite radicale. Radicalement opposé à M. Thorne Yacimbe. Et donc, je peux comprendre son discours. C'est le discours de quelqu'un qui a participé au plébiscite du 8 mai dernier et donc qui accompagne, entre guillemets, le pouvoir. Or, la crise qui s'enlise au Togo en ce moment est causée par une volonté de la majorité des Togolais de voir au sommet de l'État une certaine alternance. Yacimbe n'incarne pas l'alternance puisque lui-même est descendant de son père. Il porte fièrement le nom de son père parti en 2005. Il est installé depuis 14 ans. Il y avait un espoir avec les mouvements. En tout cas, nous qui sommes en Afrique avons perçu comme un espoir après 2017, après les mouvements lancés en 2017 et jusqu'à d'un départ de force du président Paul Yacimbe et donc comme le signe de l'alternance. Mais il y a la constitution qui est arrivée, qui nous indique bien que Sonia Sidé a de vives intentions de rester au moins pour 10 ans. Naturellement.
Mais juste, Rodrigue, même si l'opposition, comme vous dites, extra-parlementaire, était opposée à cette réforme ou à cette réforme qui autorise le président Faure Gnassingbé à se représenter en 2020 et 2025, même si elle était opposée, compte tenu de ce qu'elle représente aujourd'hui, est-ce qu'elle aurait pu avoir des ressources ? Est-ce qu'elle a des moyens de contrer cette ambition éventuelle du président Faure Gnassingbé en 2020 ?
Culturellement, non. On n'a pas l'impression structurellement que l'opposition puisse contrer les ambitions de Faure Gnassingbé. On est parti du C14 à C, je ne sais pas trop quoi. Maintenant, il paraît que c'est C7 ou C6. En tout cas, il ne reste que moins d'une demi-dizaine, à peu près une demi-dizaine d'opposants dans ce camp-là. Ça montre bien que l'opposition n'est pas suffisamment structurée et c'est le problème de l'Afrique francophone globalement. Ce n'est pas que le problème du Togo. L'opposition a du mal à se structurer en raison des causes endogènes et exogènes. Les causes endogènes, c'est les petits égoïsmes autour. Parce que tout le monde pense que si ce n'est pas lui, ce n'est personne. Il y a des raisons exogènes qui sont liées à l'organisation de l'opposition en termes législatifs parce que il faut pouvoir confier à l'opposition un certain statut sur le continent africain, et notamment en Afrique francophone, si j'enlève le Sénégal et quelques autres pays. Il faut pouvoir conférer à cette opposition un statut de l'opposition qui lui permet de fonctionner et avoir des coups d'étrange pour faire face au pouvoir, parfois des pouvoirs qui ont 50, 60 ans, comme c'est le cas du Togo. Je crois, en mon sens, que c'est les deux questions à régler pour le cas du Togo, pour aspirer à une transition sans heurts, sans violence.
Sans violence. Jean-Luc Tabar, l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, principal parti d'opposition, a introduit une requête en annulation de cette réforme auprès de la Cour constitutionnelle. L'ANC relève notamment que le projet de loi qui devait concerner seulement 3 articles a abouti à la révision de pas moins de 29 articles et ces modifications se sont étendues notamment à l'immunité des anciens chefs d'État, à l'état d'urgence, à la Cour des comptes, à la Haute Cour de justice, etc. Alors tout ça n'était pas prévu dans le projet de loi. Pourquoi toutes ces modifications étaient apportées à la loi fondamentale ?
Je vais vous répondre à deux niveaux. Le premier, c'est que vous savez, le 15 septembre 2017, le gouvernement togolais avait introduit, dans le même contexte d'ailleurs, un projet de loi de révision constitutionnelle concernant 3 articles, l'article 52, l'article 59 et l'article 60. Et en retour, l'ANC à l'époque qui était à l'Assemblée nationale a proposer un amendement de 47 articles.
47.
Dans le même, avec la même constitution où il y en avait changé. 47 articles, y compris dans le préambule de la constitution.
Mmh.
Donc, c'est souvent faire preuve de, peut-être, un peu de mauvaise foi pour ne plus reconnaître ce qu'on a pu faire à l'époque quand il y a l'Assemblée, et à reconnaître cette prérogative à d'autres personnes qui le font. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que, ben, écoutez, en dehors de l'article 144 donne les conditions de modification de la Constitution par l'Assemblée nationale. Il faut être, il faut avoir les 4/5 des voix pour faire la modification de l'Assemblée des textes. Il y a mis dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mis dans la Constitution, une limitation quant à la quant à la possibilité de modification d'une loi ou même d'une loi constitutionnelle quand l'initiative est apportée à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, j'ai même copie de ce recours-là. D'abord, c'est que malheureusement, l'ANC n'est pas qualifiée pour saisir la Cour constitutionnelle parce que, suivant l'article 104 de notre Constitution, il n'y a que le président, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, 1/5 des députés qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle sur la promulgation d'une loi. Mais pour autant, comme je vous le donne avec l'exemple du 15 septembre 2017, il n'y a pas de limite. Vous modifiez et ensuite, si vous pour voter le texte, vous avez la majorité qualifiée et vous adoptez. Donc, il n'y a rien qui empêche l'Assemblée nationale, qui est souveraine d'ailleurs, qui force l'Assemblée nationale de se limiter au texte introduit par le gouvernement.
Donc, vous voulez dire que cette démarche de l'ANC auprès de la Cour constitutionnelle, cette requête en annulation, c'est juste une formalité, quoi.
C'est beaucoup plus une manœuvre, on va dire, un peu populiste, juste pour donner l'impression qu'on fait quelque chose, parce que d'abord, cette procédure ne va pas prospérer. Mais en plus, comme je vous l'ai dit, eux-mêmes, ils ont fait exactement la même chose quand ils étaient à l'Assemblée nationale. Dernier élément, c'est que, vous savez, sur les propositions qu'on a eues avec l'espèce sénégalais en 2018, l'espèce sénégalais avait proposé qu'on modifie l'article 100 sur la durée de le mandat des membres de la Cour constitutionnelle. Au même moment, vous avez l'article 101 qui donne la durée du mandat du président de la Cour constitutionnelle. L'article 101 met donc le mandat du président de la Cour constitutionnelle à 7 ans, et l'article 100 met le mandat des membres de la Cour constitutionnelle à 6 ans. Vous n'imaginez pas un seul instant des députés ou bien même n'importe qui modifient une loi et qui font que les membres d'une même institution aient deux mandats différents. Ça n'a pas de sens.
Merci. En quelques mots, Monsieur Tama, pour terminer sur le sujet, vous l'avez dit, on a aussi écouté notre confrère Rodrigue, vous l'avez dit, il est difficile aujourd'hui, compte tenu de l'émiettement de l'opposition dite radicale ou extra-parlementaire, de rebondir pour empêcher éventuellement Fort Niassim de se présenter en 2020. Quelle est aujourd'hui, d'après vous, quelles sont les priorités de l'opposition? Quelles doivent être ses priorités? À quelle lutte l'opposition aujourd'hui doit-elle se lancer?
Non, pour moi, je pense que l'opposition doit pouvoir aller retourner sur le terrain. On se contente un peu trop sur Lomé. On doit aller se retourner sur le terrain. Que les partis fassent de stabilité derrière des regroupements. Il y a des partis qui sont habitués à être toujours dans le regroupement. Que chacun est sur le terrain, travaille de telle façon qu'en 2020, en profitant du mécanisme des deux tours, qu'au deuxième tour, le parti de l'opposition qui pourra se présenter au deuxième tour pourra avoir une réserve de voix de par les autres partis de l'opposition et que le parti n'aura pas de réserve de voix. Donc aujourd'hui,
dans l'opposition, ça veut dire que les locales pour l'opposition ne sont pas un enjeu. Il n'y a aucun enjeu pour les locales du 30 juin prochain, alors qu'il y a une grosse polémique sur les inscriptions sur les listes électorales.
On n'a pas fait de locales, donc c'est très bien qu'on commence. Mais les locales n'auront pas d'impact direct sur les élections de 2020. Donc aujourd'hui, parce que 2020, c'est demain. Les élections locales, même en 2020, c'est même pas sûr qu'on aurait installé tous les maires, qu'on aurait tous les bâtiments. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment mettre 2020 comme un objectif pour l'alternance, il faut que les partis politiques retournent sur le terrain, ne se limitent pas uniquement à Lomé, retournent sur le terrain, mobilisent l'électorat pour faire en sorte qu'on puisse émietter les voix du parti au pouvoir et espérer donc un deuxième tour qui consacrera l'alternance politique autour.
Est-ce que la nouvelle constitution rapproche la perspective d'une union de l'opposition ou plutôt éloigne l'opposition d'une possibilité de travailler ensemble? Je veux dire de toute l'opposition.
Non, d'une union, comme on l'a vu par le passé, pas de regroupement aujourd'hui, ça s'éloigne de plus en plus, mais d'une approche stratégique qui permet à l'opposition d'envisager un deuxième tour, oui, ça peut amener aujourd'hui l'opposition à se parler avec plus de liberté, parce qu'autrefois, comme notre confrère du Cameroun l'a dit, c'est qu'il y a des égos surdimensionnés qui empêchent le regroupement des partis de l'opposition. Or, si aujourd'hui chaque parti sait qu'il peut négocier quelque chose au deuxième tour en ce moment-là, ça permet un travail en synergie, et je pense qu'aujourd'hui, on a plus la capacité de travailler ensemble en respectant les propres types de tout un chacun que ce que nous avons été obligés d'imposer par le passé parce qu'on avait des élections en tour et on était obligés de créer des regroupements qui étaient souvent des familles à ça.
Jerry Tama.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec Jerry Tama, notre grand témoin invité, député à l'Assemblée nationale du Togo, et notre confrère invité au téléphone depuis Yaoundé, Rodrigue Tanguay. On va parler du Cameroun, justement. Le 20 mai dernier était célébrée la fête nationale du Cameroun, une célébration sous le signe de l'unité nationale, mais en absence de grandes formations de l'opposition telles que le SDF ou le MRC, dont le leader Maurice Kamto est en détention depuis janvier dernier. Une fête boycottée également par les séparatistes qui militent en faveur de la création d'un État indépendant dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Pourtant, c'est dans ce contexte que le président Paul Biya s'est dit prêt à engager un dialogue et un processus de réconciliation pour mettre fin au conflit dans ces régions anglophones. Alors, quels sont les ressorts de cette offre politique, offre de dialogue, après plusieurs mois d'une réponse essentiellement militaire à cette crise dite anglophone? Et quels seront les acteurs de ce dialogue, alors même que le pouvoir a d'ores et déjà annoncé que les questions relatives au séparatisme ou au sécessionnisme ne seront pas prises en compte dans ce projet de dialogue? Première question pour vous, Rodrigue Tanguay, vous êtes sur le terrain. D'abord, les observateurs ont noté que ce projet de dialogue a été fortement influencé, et aurait été fortement influencé par les pressions internationales provenant notamment des États-Unis, des Nations Unies ou encore du Parlement européen. Est-ce qu'on peut évaluer le poids de la diplomatie internationale sur la nouvelle gestion du conflit par les autorités camerounaises?
Oui, il y a un point notable, certain, et même très perceptible. Vous savez, le président Biya est très porté vers l'Occident. Il ne cache pas, à travers les signes qu'il affiche tous les jours, il ne cache pas...
Rodrigue Tanguay, la communication n'est pas très bonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous auriez un kit mail libre? Si c'est le cas, il faudrait vous en débarrasser.
Alors, est-ce que je ne sais pas si vous m'écoutez mieux en
tout? Voilà, c'est
tout
mieux.
Tout à fait, c'est mieux, oui.
Allô?
Oui, allez-y.
Oui, je disais que le président Biya est très porté vers l'Occident, et très influençable lorsqu'il s'agit de l'Occident, lorsque les recommandations viennent de l'Occident. Il participe presque pas aux réunions au niveau panafricain. Il est président en ce moment de la CEMAC, président de l'exercice de la CEMAC, mais il n'a pas participé à la dernière réunion où il devait prendre entre guillemets le pouvoir. Et donc l'arrivée de Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaine, où l'arrivée de Mme Bachelet plus tard a eu un impact de poids sur la conduite de la lutte contre le sécessionnisme qui est menée en ce moment dans le nord-ouest et le sud-ouest par le pouvoir de Yaoundé. Il y a eu des promesses de discours, de dialogue du bout des lèvres. On sentait bien que c'était pour la forme, mais on voyait derrière une certaine menace militaire, le président Biya a même d'ailleurs déclaré la guerre entre guillemets contre ceux qui avaient pris les armes au nord-ouest et au sud-ouest. Mais il y a eu comme un adoucissement de son discours depuis l'entrée en jeu de la communauté occidentale, passez-moi l'expression. Il y a eu d'abord cette première escarmouche du Parlement européen, puis l'arrivée de Tibor Nagy au Cameroun, et puis de Mme Bachelet, et puis... toute la classe politique, en tout cas l'establishment installé au Cameroun, a proclamé un certain dialogue inclusif, a s'est montré ouvert pour le dialogue inclusif. D'ailleurs, Mme Bachelet, dans le rapport qu'elle a rendu après son séjour au Cameroun, elle a indiqué que les autorités camerounaises... Le rapport sur les droits de l'homme, elle a indiqué que les autorités camerounaises lui avaient promis un dialogue inclusif. Alors le Premier ministre, le tout nouveau Premier ministre qui est issu, lui, du Sud-Ouest, a commencé une tournée dans la zone anglophone en allant dans le Nord-Ouest.
Ouais, d'accord, Rodrigue. Voilà, il y a, en faute de temps, on ne va pas faire tout ça.
Rodrigue, est-ce qu'on peut parler réellement d'un changement d'orientation du pouvoir de la gestion du conflit?
Alors, le changement d'orientation, c'est avec la visite du Premier ministre la semaine passée en zone anglophone, sauf qu'il y a eu comme un bruit dans sa communication, puisque le ministre de l'administration territoriale, qui est originaire du Nord-Ouest, qui est un peu détenteur du pouvoir exécutif sur la gestion de ce conflit, a annoncé sur l'antenne de nos confrères de France 24 qu'on pourrait débattre de tout, sauf du fédéralisme et de la sécession.
Justement.
Or, le Premier ministre, lui, l'avait indiqué qu'on pourrait débattre du fédéralisme et pas de la sécession. Du coup, il y a eu comme une perte de confiance de l'opinion publique, de la société civile, des religieux, quant au discours que le pouvoir affiche, que le discours prononcé par le pouvoir au sujet de la résolution de la crise. On doute aujourd'hui, on en est arrivé à douter de la sincérité de ceux qui nous gouvernent quant à vouloir un dialogue inclusif.
Donc vous pensez que l'auteur de l'appel, qu'est le président Biya, n'est pas sincère? Et dans ce cas-là, quelle peut donc être la suite que peuvent réserver les sécessionnistes à cet appel? Puisque même celui qui fait cet appel, vous dites que ne semble pas très sincère dans son appel.
Il y a redouté la radicalisation davantage, parce qu'on s'est radicalisé depuis un ou deux ans, il y a eu certaines radicalisations sur le terrain. On peut s'attendre à plus de radicalisation tant qu'il n'y a pas un discours fort qui part du président de la République lui-même. Il nous a habitués à des tweets pendant le mois de l'unité, le mois de la fête de la fête nationale.
Et déléguer l'appel au dialogue à son Premier ministre.
Oui, il a délégué pour la phase actuel, il a délégué au Premier ministre. Maintenant, le public était même fondé à s'attendre à un discours le 19 mai dernier. Il n'en a pas l'habitude, mais tout le monde attendait soit un discours, soit des mesures de grâce en direction ou en faveur de personnes emprisonnées dans le cadre de la crise anglophone, qui montrerait qu'il y a une volonté, ce serait venu acter une volonté de dialoguer. Pour le moment, en l'absence du discours direct du président de la République, élargissant certains acteurs de la crise anglophone, on peut douter, comme je le disais tout à l'heure, de la sincérité des bonnes annonces faites par qui ont voté, c'est le Premier ministre camerounais, dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest.
Francis, on va écouter M. Djiri Tama, notre invité sur cette crise anglophone et l'appel au dialogue lancé par le pouvoir, M. Tama. En 2018, c'est-à-dire l'année dernière, il y a eu des initiatives prises par des responsables religieux anglophones qui voulaient organiser une conférence pour une conférence générale anglophone, mais le pouvoir s'était montré très prudent et finalement, cela ne s'est pas tenu. Est-ce que vous pensez que ça a été une erreur du pouvoir, parce qu'on a l'habitude d'entendre des gens dire que, des experts notamment, dire qu'en temps de crise, en temps de conflit, toute initiative est bonne à prendre.
Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un vrai changement d'attitude du pouvoir de Biya sur la crise dans le secteur anglophone, parce que jusqu'à tout récemment, c'était plutôt même l'option quasiment militaire qui était mise en avant, donc ce qui a expliqué un peu l'échec de cette initiative. Et vous savez, le Togo et le Cameroun ont à peu près une histoire commune. Nous avons été colonisés par les Allemands, nous avons connu une partition de notre pays. Mais heureusement ou malheureusement pour le Togo britannique a été associé au Ghana, donc nous n'avons pas ce type de problème, mais on le ressent, on le comprend assez parfaitement pour avoir eu la même histoire. Je crois que, à mon sens, cette initiative, il fallait la prendre parce qu'on s'est rendu compte que dans beaucoup de pays africains...
Ma question était justement de dire, oui, l'initiative a été prise par le pouvoir de lancer un appel au dialogue, mais il y a eu d'autres avant qui n'ont pas été soutenus par le pouvoir. Est-ce que c'était une erreur ou...
Il fallait saisir cette occasion Parce que la crise, elle est profonde et il faut toujours, chaque fois que des personnes volontaires, comme les religieux, lancent une initiative de réconciliation, je pense que c'était quelque chose à prendre, mais à l'époque, je pense que c'est plutôt l'option de Riel qui était devant. Donc oui, je regrette que cette initiative n'ait pas été prise, parce qu'aujourd'hui, quand on compte le nombre de morts qui sont ajoutés depuis cette initiative, c'est un bilan macabre qui n'est pas acquis, qui est malheureux et que personne ne peut adosser aujourd'hui.
Jérick Tabar, juste une réflexion sur le format du dialogue proposé pour l'instant. Les autorités camerounaises indiquent que les questions liées donc au séparatisme, au sécessionnisme, seraient exclues du dialogue. Est-ce qu'on peut réellement établir un dialogue avec tous les acteurs concernés en évacuant a priori certaines questions qui sont quand même au cœur de la crise ?
Vous savez, dans beaucoup de pays africains, la question de séparation, même parfois de fédéralisme, est une question dangereuse parce qu'elle peut donner des idées à d'autres enclaves ou à d'autres communautés. Et donc souvent, les États, on a la même chose.
Dans Mais pourquoi ne pas les aborder, quitte à les évacuer par la suite ? C'est ça ma question. Parce que...
Moi, je pense que ce qui est toujours mieux, c'est de pour moi, si ça ne dépendait que de moi, de dire que tous les sujets peuvent être abordés, quitte maintenant...
Pas de sujet tabou.
Quand cette question... Voilà, pour éviter un sujet tabou, parce que vu l'ampleur du différent aujourd'hui qui oppose ces gens-là, établir déjà des sujets tabous peuvent absolument renvoyer certaines personnes de la table de négociation. Parce que les gens ont perdu quand même la vie à l'aune de ces revendications, dit que ces revendications ne pourront pas discuter, peuvent renvoyer certaines personnes. Et on voit, le conseil journaliste vient de le dire, ce qui soit peut-être amener certaines personnes à penser que l'achat de main tendue n'est pas sincère et que c'est juste pour faire plaisir à la communauté internationale que cette main est tendue.
Rodrigue, rapidement, qui peut faciliter le dialogue s'il a lieu ? Est-ce que c'est la CEMAC, l'organisation sous-régionale, l'Union africaine, les religieux locaux ou des organisations non africaines ? Qui pourrait, d'après vous, être le meilleur facilitateur de ce dialogue dans le contexte actuel qu'on connaît ?
Au regard des précédents, le dialogue précédent qui a eu au Cameroun, c'était la tripartite qui a abouti sur la constitution de 96. Et puis il y a eu une sorte d'escroquerie du pouvoir dans la mise en œuvre des décisions ou bien des grands axes de cette tripartite-là. Et donc les Camerounais sont réveillés après avoir constaté que ça n'a pas été mis en œuvre avec la gueule de bois. Et donc ils ne croiraient pas à un dialogue organisé seulement entre nous Camerounais. Il faut peut-être utiliser ce qu'on appelle en diplomatie la principe des cercles vertueux, peut-être à le voir au niveau de la CEMAC, puis peut-être au niveau de l'Afrique, et peut-être intégrer l'Occident ou bien l'Est avec l'Asie. Mais en tout cas, vous trouverez rarement au sein de la société civile ou de l'opposition un leader qui pense qu'un dialogue inclusif entre Camerounais serait une solution.
Donc il faut forcément un facilitateur extérieur.
Extérieur.
D'accord. Merci beaucoup. Francis, prochain sujet.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin Géry Komandega Tama, député de l'Assemblée nationale du Togo, et notre confrère invité depuis Yaoundé au téléphone, Rodrigue Tongué. Dernier sujet avec vous, Liliane, la RDC.
Oui, et après sa nomination au poste de Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilukamba n'a pas encore formé son gouvernement. Avec le retour de l'opposant et patron de la coalition Lamuka, Moïse Katumbi, cette semaine, certains Congolais parient sur son entrée au gouvernement. Jerry Komandega Tama, est-ce que vous aussi, vous espérez, vous pariez sur l'entrée au gouvernement de Moïse Katumbi ? D'ailleurs, certains... font un lien entre sa nomination, la nomination du Premier ministre et le retour le même jour de Moïse Katumbi.
Je le souhaite ardemment parce que vous savez, l'Afrique, toute l'Afrique centrale vit sur le rythme de la RDC et c'est un pays qui a besoin vraiment de réconcilier tous ses fils. Et j'espère vraiment que le retour de Moïse Katumbi et la nomination, parce qu'il y a quand même des coïncidences qui ne trompent pas. Et j'espère qu'on va connaître l'entrée de beaucoup d'autres personnes qui ont animé la vie politique de haut niveau de l'opposition en RDC pour, à la limite, sur les 5 prochaines années, avoir un gouvernement, peut-être, je n'aime pas le terme gouvernement d'union, mais un gouvernement de mission dont la mission principale sera de réconcilier l'ensemble des Togolais et des Congolais. Donc j'espère vraiment que Moïse Katumbi va rentrer dans le gouvernement qui va se mettre en place, que d'autres leaders de l'opposition vont rentrer dans ce gouvernement pour réellement réconcilier définitivement les Togolais et les Congolais et régler les problèmes de sécurité qui sont à l'Est, qui sont des problèmes qui sont très très importants selon moi.
Les priorités. Francis.
Auduc Tanguay, alors comment voyez-vous ce jeu d'équilibre du nouveau Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba? Quelles seront ses marges de manœuvre selon vous? Il faut quand même préciser que ce nouveau Premier ministre s'inscrit dans le cadre très particulier de cette coalition entre le camp de l'actuel président et celui de l'ex-président Joseph Kabila.
On a l'impression, je peux me tromper, mais à partir de Yaoundé où je me trouve, on a l'impression que le nouveau Premier ministre était un postiche du président Kabila parti. Et son pedigree n'aide pas à nous conforter dans l'idée qu'il ne serait pas un postiche puisque c'est un ancien ministre de Mobutu.
Oui.
Le sentiment qu'on a, c'est que Joseph Kabila n'est pas véritablement parti. On avait ce soupçon au lendemain du dernier scrutin qui a consacré l'élection de Tshisekedi. Mais avec ceci, on a des faits qui nous montrent qu'il y a eu peut-être un deal au moment de l'organisation de la dernière élection présidentielle en RDC. On a l'impression que cette cohue qui nous a toujours dit que Kabila était parti parce qu'il avait subi des pressions au niveau de l'Occident, on revient aux pressions au niveau de l'Occident, n'a pas voulu définitivement partir, il a voulu garder un peu la main sur le pouvoir.
Et Rodrigue, permettez-moi de vous interrompre. Si on revenait sur la nomination du Premier ministre, est-ce que, parce que c'est ça le débat aujourd'hui, je pense qu'on a passé la phase de tout ce qui a été dit sur l'élection, alliance ou non entre Kabila et Tshisekedi, mais aujourd'hui il y a un Premier ministre qui est en place. Est-ce qu'au regard des conditions de sa nomination, survenue quand même 4 mois après d'attente pour obtenir le consensus, est-ce qu'il aura les mains libres pour former son gouvernement et peut-être le tact indispensable pour ne vexer ni Kabila ni Tshisekedi?
Mais c'est ce que je dis. Je dis que Kabila reste au cœur du pouvoir parce que j'imagine qu'il va obtenir, il va demander ou obtenir une feuille de route de son parrain qui est le président Kabila en retrait de la vie politique, qui va pouvoir placer quelques pions dans le système. Et donc on n'aura pas quitté le système Kabila puisqu'on a un Premier ministre qui est un postiche de l'ancien président. C'est ce que je disais il y a un instant.
Alors, il a quand même fallu attendre 4 mois pour avoir ce Premier ministre. Les deux camps ont eu beaucoup de mal à s'entendre sur un nom. Comment voyez-vous se profiler la formation du nouveau gouvernement? Est-ce que ça sera chose aisée pour ces deux camps?
Non, rien que à prendre l'exemple, dans l'illustration des 4 mois d'attente, on voit bien que les tractations vont durer encore au moins 4 mois, sinon... un an, le débat ce sera est-ce que c'est du 50-50, est-ce que c'est du 30-70, est-ce que c'est du 60-40. Je crois que davantage c'est de cela qu'il s'agira. Et puis il y a ce qu'on appelle en Afrique des ministères de souveraineté, des affaires étrangères, les finances, la défense,
l'administration
territoriale ou l'intérieur, la justice. Je crois que davantage le point d'achoppement vont se trouver à ce niveau-là et tout dépendra maintenant de la capacité de Tshisekedi à manœuvrer. Tout dépendra de sa capacité à convaincre Fayoulou d'intégrer le gouvernement. Tout ça peut être en sa faveur. Parce que c'est clair.
Donc vous pensez qu'avec la position, disons, un peu plus conciliante de Moïse Katumbi, Martin Fayoulou pourrait entrer au gouvernement alors qu'il conteste toujours l'élection de M. Tshisekedi?
Ce serait pas rationnel. Mais en Afrique, il y a des moyens de convaincre les leaders, même les plus extrémistes, à regagner le centre, à regagner le pouvoir. Je prends pas le cas de notre cher ami député au Togo qui est en ligne. Il y a d'autres moyens. On peut lui proposer des postes de souveraineté. On peut lui proposer un certain confort. On peut lui proposer le passage demain. Après Tshisekedi, parce que la RDC ne s'arrête pas avec Tshisekedi, il faut lui proposer de faire passage demain après. Il y a dû arriver dans l'histoire de l'Afrique que des leaders acceptent ces conditions-là et intègrent un gouvernement.
On a bien compris que les tractations pourraient donc continuer. La politique en RDC réserve beaucoup de surprises. Merci beaucoup. Le moment est venu d'écouter les messages des internautes, messages recueillis et livrés à présent par Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat_bbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/débat_bbcafrica.
Bonjour Francis, bonjour et bienvenue à Liliane. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Togo Gabvoun Bada Bourgeois appelle le président fort à céder le pouvoir à d'autres personnes afin de ne pas finir comme son père et plonger encore le Togo dans une crise. Pour notre internaute, le président togolais est encore jeune et peut donc mener une vie après le pouvoir. Charles Bazema, de son côté, demande à notre invité s'il est députés togolais n'ont pas vendu leur pays à la dynastie Faure Yassingbé en adoptant la nouvelle réforme de la Constitution. Cameroun Dimanga Tchandjoum Ozana estime qu'il y a zéro chance pour un dialogue tant que l'État central et les séparatistes ne mettent pas un peu d'eau dans leur vin. RDC Koumassa Maurice affirme que le Premier ministre est pris entre deux feux. Le choix de servir les intérêts de Kabila ou soutenir l'action de Tshisekedi va déterminer, selon lui, l'agenda du nouveau Premier ministre. Merci à Aboulaye Bio Junior, Aimé Pouyongo et Yakuba Sawadogo qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat_bbcafrica et sur Twitter à @débat_bbcafrica. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Sylvain Dislas. Les vacances, c'était pour Liliane. Hein. Bon, pour l'instant, on en aurait tous besoin, hein, toute l'équipe. Bon. Jerry, voilà, Komandega Tama, une conclusion générale, s'il vous plaît, c'est la tradition.
Ben écoutez-moi ma conclusion. D'abord, à l'endroit des Togolais, nous avons des élections locales qui doivent déterminer le développement harmonieux de nos localités. Il faut que tout le monde s'y intègre. Et le seul appel que je dois faire peut-être à l'endroit de tous les Africains qui nous écoutent, aujourd'hui, on a deux menaces qui mettent en péril notre vie ensemble. C'est d'abord le terrorisme et la misère. Nous devons, au-delà de nos adversités politiques, penser à ces deux fléaux-là et à la façon de les combattre pour rendre l'Afrique aussi meilleure et devenir l'ordre de l'humanité pour l'ensemble de la Terre.
Alors, concernant le terrorisme,
il y aurait d'autres combats politiques.
Oui, parce que c'est nouveau le terrorisme, voilà, dans le discours politique.
Oui, mais monsieur Tamanon, vous dites que...
L'argument du terrorisme, c'est nouveau. Hein.
Oui,
c'est nouveau dans le discours politique togolais.
Oui, non, mais écoutez, aujourd'hui, nous avons le terrorisme aux limites au nord du pays. On a vu tout ce qui se passe dans le Pendjari, tout ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui. Ce n'est plus une menace en l'air, on le vit, au Togo aussi, il y a des réseaux qui ont été démantelés. Donc aujourd'hui, au-delà de nos affrontements et de nos oppositions politiques, il faut penser quand même que le tissu social est aussi menacé par ces deux fléaux-là, la misère et le terrorisme.
Merci.
Et au-delà donc, de ces affrontements, il faut penser à ces deux fléaux.
Merci beaucoup, merci Jerry Komandega Tama, député à l'Assemblée nationale du Togo, président du groupe parlementaire NET-PDP, NET-PDP, Nouvel Engagement Togolais et Parti Démocrate Panafricain. Jerry Tama, également secrétaire du groupe des centristes au Parlement togolais. Merci à notre confrère Rodrigue Tongué, journaliste à Canal 2 International, chaîne de télévision privée du Cameroun. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par François Richard, chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez réécouter cette émission, bien sûr, en podcast sur nos sites respectifs, africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio, avec Liliane qui ne sera plus en vacances. Merci. Bon week-end à toutes
et
à tous.
Je confirme, Francis Laloupo, je serai avec vous la semaine prochaine et les autres semaines à venir. Au revoir et bon week-end.